But now we come to a period that I call the battle for identity.
Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of bubble mice. Yeah.
Bonsoir, mardi 25 octobre, 19h, 20h, en attendant Godard, sur SILAB, saison 9, épisode 8. Ce soir, c'est une émission un peu spéciale, il n'y a pas d'ouverture, puisque Godzilla est dans la place. Oui, c'est un peu honteux. Je vais tout de suite passer la parole à notre ami Thomas, qui est ici présent avec nous, puisque cette émission, je le disais, est un peu spéciale, puisqu'elle est enregistrée donc jeudi dernier, pendant le festival Court-Métrange.
C'est ça.
C'est bizarre.
Dans l'épisode de Star Trek.
C'est un peu ça.
Donc salut les kids, effectivement, Erwan, nous sommes en direct... différé pour vous depuis le Golden Gate Café situé rue Saint-Georges, donc le meilleur estaminet de la place rennaise. Et nous sommes donc en présence de Christophe Godzilla Lemaire, journaliste dans une palanquée de publications diverses et variées, sur les sujets diverses et variés, donc dans Rock et Folk, qui s'occupe de la chronique cinéma, journaliste à Mad Movies, à Haute Vidéo, ou aussi... j'ai jamais fait Haute Vidéo. Donc voilà, et qui a aussi bossé pour Canal+, et qui a été un des membres actifs de leur revue Starfix, dont nous allons parler un petit peu aujourd'hui, car un ouvrage anthologique est ressorti mercredi de la semaine dernière sur... oui, c'est ça, mercredi de la semaine dernière. Donc sur la revue le 19 octobre. Donc voilà, donc Christophe Lemaire, qui est aussi issu d'une famille célèbre, puisque son père Francis était comédien de théâtre et de cinéma dans de nombreuses comédies populaires. Et donc, c'est également le frère de la célèbre, performeuse, chanteuse caca de PPI, les pervers polymorphes inappropriés, avec on m'a dit c'était inapproprié, donc c'était avec François Gondrax et Karim Berouka des Ludwig 2488. Mais ça, c'est un donc accessoire. Et donc Christophe, tu es à Rennes en ce moment dans le cadre du festival Court-Métrange, où tu es membre du jury. Donc ouais, c'est ta quatrième venue à Rennes. Avant, t'étais juste là en tant que journaliste pour faire des reports dans Mad Movies. Et donc, en tant que membre de jury de Court-Métrange, qu'est-ce que tu attends un peu du court-métrage fantastique français et européen ?
Déjà, pour être honnête, je ne vois pas trop de court-métrage, parce que dans l'année, j'ai juste 3000 films à deviner chez moi, comme vous, j'imagine. Entre la cinémathèque et Projo, le câble, les téléchargements, c'est des cours, vraiment, je profite d'une occasion qui est celle du court-métrage. J'imagine le meilleur, puisque il y a des sélectionneurs qui doivent en voir à 4000 pour en retenir 2,7. Donc voilà. Et puis en fait, il y a aussi un autre truc, c'est que surtout, c'est que des fois, quand il y a des courts-métrages ailleurs, j'ai envie de les voir. C'est de dire, parce que des fois, quand tu te retrouves comme ça, dans le court-métrage, tu te retrouves à avoir une session de court-métrage, et tout d'un coup, il y en a deux à la suite que tu as vu. Donc c'est chiant que tu. J'ai déjà vu, et là, merde, celui-là, j'ai déjà vu, et
Je me sers un verre de métier. Pas de marque à l'antenne. Faire de la pub, hein, après. Ah oui, donc parce qu'avant nous avons fait un petit tour dans Rennes dans les diverses apicaches et troquantes rennaises. Un autre membre de l'émission vient de nous rejoindre, monsieur Massuet. Dis bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour, bonjour à tous.
Et donc ce petit tour des troquantes rennaises, comment est-ce? Parce que c'est une de tes grandes traditions dans toutes les villes que tu traverses. Donc voilà, la raison de ta venue à Rennes, les magasins Nose et accessoirement le jury de courbe étrange qui donc s'est terminé dimanche dernier avec un très très beau palmarès, on peut le dire. Et donc, en partant de court-métrage et de la défense d'un certain cinéma fantastique, on va donc parler de la grosse sortie de la semaine en termes éditorial, qui était donc l'anthologie consacrée à la revue Starfix, à laquelle tu as collaboré pendant de longues années, même si tu n'es pas un des membres créateurs. Le temps de t'enfanter, quoi. Donc, revue créée par Christophe Gans, qui maintenant on connaît bien, puisqu'il est devenu le metteur en scène à succès que l'on connaît. Voilà. C'est ça. Exactement. Donc, Christophe Gans, un anti-bois, et qui a fait exactement un autre créateur, lui aussi devenu metteur en scène après être passé par Canal Plus Écriture, et aussi Edu Guideline. Donc. Exactement, Brosséliens en 2003, qui lui est le fils d'une de nos marottes de l'émission, donc de Jean-Patrick Manchette, le plus grand auteur de romans noirs de l'Hexagone. Ouais, produit en ce moment. Du premier roman qu'il avait coécrit avec Jean-Pierre Bastide en 1962, je crois.
Starfix, c'est une revue qui est créée en 1983. Il y aura 90 numéros jusqu'en 1990. Le livre qui vient de sortir, Histoire de Starfix, comment s'est passée cette aventure éditoriale? C'est-à-dire, qui a eu l'idée? Est-ce que...
mais qui a fait l'effort de venir à ce repas pour qu'on se retrouve.
Et de fil en aiguille, sous l'impulsion, je crois, de Frédéric Alberlini et de Paola Boileau, dit ce serait bien qu'on mette le couvert, mais juste pour se retrouver, quoi. Donc on a réfléchi à savoir comment faire, comment revenir, mais revenir de façon, pas revenir genre attention on revient, c'est vraiment revenir comme ça, quoi, juste pour mettre un petit clin, en clin d'œil, quoi. Et on a réfléchi, on s'est dit bon, on s'est estrafé, c'est absurde, chacun a sa vie, et les enfants, les films, voilà. Après, on a pensé sérieusement à un blog ou à un site, mais là aussi, c'est un site qu'il faut le fournir. Et de fil en aiguille, il se trouve que Hélène Méric, qui a elle-même écrit sa propre autobiographie qu'elle a autoproduit, la fille de Starfix, pour pouvoir avoir le droit du logo Starfix, réutiliser le logo, il fallait s'adresser à celui qui avait racheté Starfix. Donc Patrice Giraud. Et Patrice Giraud avait ressorti une autre couture de Starfix dans les années 90 auquel j'ai participé. Et on l'a recontacté, enfin Hélène, via Hélène, on l'a recontacté, et il se trouve que Giraud a fait. En fait, a dit, mais attendez, moi je suis super fan du Starfix d'origine, moi je vous suis à fond. Non seulement je vous passe le logo, mais je veux bien, si vous voulez faire un truc. D'où l'idée qui est venue de ce livre. Constitué au final à 70% de reprises de textes, d'articles sur des 30 premiers numéros, sur les 90, et le 20 et 30% restants, de nouveaux textes faits par la majorité de tous les ceux qui ont créé Starfix, ce qui est unique, je pense, dans l'histoire de la presse française, c'est-à-dire qu'on a les rédacteurs d'un canard d'origine qui, 25 ans après la mort d'un magazine, reviennent pour faire des textes. C'est, je crois qu'il n'y a pas d'autre cas. Et voilà, ça s'est fait. Le monteur m'a mis un an à le faire, parce que le souci aussi, on s'est très rarement réunis tous, quoi, parce qu'il y a toujours quelqu'un, Nicolas tourne, Christophe tourne, François produit, des fois on n'est pas tous ensemble. Ça a dû nous arriver 3-4 fois d'être vraiment tous ensemble chez Frédéric Alberlini. Ce qui était drôle, c'est que quand on se retrouvait, c'est comme si les 25 ans qui s'est passé avant n'existaient plus. C'est comme si on était en réunion de Starfix en 1987. C'était très bizarre. On rigolait comme des malades. Voilà, on se chambrait les uns les autres. Et voilà, le camion de duel qui est en train d'arriver. C'est peut-être ma dernière parole. Si ça tombe dans une roue étroite. Et voilà le camion de duel.
La vache.
Il passera jamais, sauf s'il nous écrase. Mais c'est sympa.
Christophe, tu viens de nous parler d'un petit peu comment s'est créé justement ce livre, l'histoire de Starfix. Je voulais peut-être savoir la sélection justement de ces textes. Tu parlais d'une sélection autour des 30 premiers numéros. Ça s'est fait par auteur justement, espèce de retour sur les 30 premiers numéros.
Non, après, on a commencé à
ça s'est fait par logique, par recoupement, par c'est pas qu'il y ait des doublons, ça c'est genre ça c'était un article qui avait impressionné les lecteurs, ça moins. Ah merde, on a mis trop de Sam Raimi, James Cameron, il faudrait peut-être mettre un peu de français, qui on met, donc voilà, c'est comme dans un cliché de fil en aiguille, alors je sais plus, moi honnêtement là au moment où je parle, j'ai même pas eu le temps de vraiment me replonger dans le livre. J'ai vu les textes de tout le monde, les nouveaux textes passés, je les ai vite lus, donc j'ai pas encore vraiment relu. C'est Fall en fait qui a pu vraiment corriger. C'est Frédéric Albert-Lévy qui est rédacteur en chef de ce livre.
Ce qui est vrai.
C'est finalement c'est Nicolas Doug et Gans sont été rédacteurs en chef et du Canard. Et là, c'est Fall qui est rédacteur en chef du livre.
Et est-ce que le choix justement de certains articles s'est fait sur la mise en page justement?
Je pense qu'il y a peut-être eu je me souviens plus trop, mais il est possible qu'il y ait eu des articles qui ne soient pas, qu'on voulait mais qui ne soient pas passés à cause de mise en page. Surtout qu'on a repris les mises en page telles quelles. Donc là, c'était très complexe, c'est qu'il y avait des points de fin d'articles qui se retrouvaient dans d'autres pages. Et je crois même qu'il y a des articles. Celui qui pourrait plus répondre à ça, c'est Frédéric, mais ça a été un moment un peu complexe. Et surtout, puis aussi un truc assez important, c'est qu'il fallait, pour dire un truc aussi, c'est que c'était très axé aussi pour l'éditeur aussi sur les hitties, sur les années 90, sur le fétichisme des hitties. Il faut qu'on ressente aussi dans le bouquin les années 80 ressortent. Donc je pense qu'il y a des éditeurs à remettre pour ça aussi. Et puis bon, c'était complexe de faire un choix. Et honnêtement, moi ça peut passer à reluire, c'est qu'en relisant ce qu'on a fait, parce que moi j'ai pas plongé dans Starfish depuis l'époque, on était estomaqués de voir à quel point on avait réussi à avoir tout ça, alors qu'il y avait évidemment Internet n'existait pas. Tout ça c'était des coups de téléphone, des rencontres, des contacts, principalement par fax et par téléphone, quoi. Et pour récupérer des photos de partout, de tournage, François qui partait sur les tournages de c'est fou quand même, personne ne fait ça aujourd'hui, qui partait sur les tournages de Paul Verhoeven, de James Cameron, de tout ça, c'est vrai, bien sûr, mais c'était déjà quand même. Et je me dis, tiens, quand même,
parce que Erwan parlait de mise en page, puisqu'on va revenir après, je pense, sur l'importance ou l'intérêt que Starfix avait pour certains cinéastes qui maintenant sont reconnus. Et donc c'est vrai qu'il y avait aussi un autre élément important qui était la charte graphique de Starfix et sa mise en page qui découle, je pense, de l'influence peut-être de Metal Hurlant ou de ce genre de magazine pop très marqué.
et du coup je suivais pas trop ça, moi, qui s'inspirait de quoi. Alors évidemment il y avait l'idée aussi, c'était de faire l'équivalent en cinéma de faire un Metal Hurlant en version que du cinéma, quoi. Metal, il y a un peu de cinéma,
ouais. Headline aussi avait commencé à Metal, ainsi que son père Manchette, qui tenait une rubrique sur les jeux de société sous le nom du général Baron Staff.
La seule revue de cinéma en couleur jusqu'à présent, je pense, il me semble que c'était première, mais voilà, c'était la deuxième revue de cinéma en couleur, tout en couleur, publiée en France, avant même que Studio n'existait pas quand on était publié, et les autres, les cahiers positifs, tout ça, j'aurais été en noir et blanc, donc je sais pas si peut-être de la couleur aujourd'hui, je sais pas, donc. Mais il y avait ça aussi, je pense que ça aussi ça a marqué, surtout que mais je prends des exemples, je ne sais pas pourquoi je pense à cet exemple, mais Pascal Laugier, par exemple, qui était un lecteur de Starfix, il dit, moi, quand j'ai acheté Starfix, j'ai vu les photos de gore, de ténèbres, dont la fameuse photo du jet de sang sur le mur blanc avec la main coupée de l'actrice, voilà, dans Ténèbres. Et elle me dit, j'avais 12 ans, ça m'a traumatisé, quoi. Donc il y avait aussi, comme à Paris Match, le choc des photos, quoi.
Bien sûr.
Et ça on se rend compte que ça a beaucoup, beaucoup marqué, quoi. Les photos, la couleur, les couvertures, Rambo qui était numéro 2, était probablement notre meilleure vente, ou une de nos plus grandes ventes. Parce qu'évidemment, Rambo est avec nous qui en parlait, qui a besoin de couverture là-dessus, quoi. À l'époque, on était les premiers en France à faire. Non, il y a eu Rocky, mais voilà, quoi. Voilà.
Par rapport à l'avant-propos, puisque vous avez quand même eu un avant-propos assez particulier, ouais. Je crois assez émouvant de la part de William Friedkin.
Très émouvant, ouais. Il a fait un truc, je ne sais plus, je ne peux pas reprendre ses termes parce que malheureusement j'ai pas relu encore, j'ai pas fait mon travail. Mais on était très surpris que Friedkin se souvienne de l'article qui était un des meilleurs articles publiés dans toute l'histoire de Starfix, qui était des découpages d'une séquence de police fédérale de Los Angeles. Expliqué par un type qui est décédé depuis, qui s'appelle Tarnowski, je crois, et qui est juste passé vite fait à Starfix, hein, et qui avait fait, voilà, c'est ça, et qui était super, et Friedkin qui, mais en fait, vous le connaissez, il a dû se faire traduire le papier, et du coup, il a accepté, parce qu'en fait, on a essayé d'avoir deux gens, hein. On voulait Sam Raimi en fait, à la base, mais il était injoignable. Et le fil en aiguille, Friedkin est tombé. Et Mathieu, mais Mathieu, c'est un Kassovitz, c'est un lecteur aussi de l'époque. Je me souviens que quand on faisait des avant-premières Starfix, lui il avait 20 ans, un peu moins, et il venait voir nos avant-premières à l'Escurial, quoi. Et je pense que ça a dû le marquer, puisqu'il nous a fait aussi un très très bon texte. Merci Mathieu. Merci Malotru pour prendre son rôle dans cette excellente série française Bureau des légendes. Et voilà, quoi.
On parle de William Friedkin. Est-ce que justement, toi, au moment où tu faisais Starfix et puis le rapport à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des auteurs justement où tu te disais à l'époque il fallait absolument les défendre, ou une position comme ça où...
Non, moi j'étais. Starfix, ça c'est mon impression, j'étais un peu mes camarades vont me dire, mais non, j'étais un peu le clown en fait.
Le pain bœuf, quoi.
J'étais pas le côté sérieux, personne n'était sérieux, mais les découvreurs de cinéastes qui faisaient des papiers dessus, c'était pas moi, je faisais des trucs. En fait, je réalise que dans Starfix, je faisais des à côté, je faisais des rubriques, quoi, je faisais la chronique de pain bœuf qui était. Dans Starfix, le plus déliré, le plus net, ce qui est mon style aujourd'hui, c'est une espèce de ultra cinéphagie de grand n'importe nawak, donc que j'adore faire. Mais les papiers plus sérieux, découvreurs de réalisateurs, c'est plutôt. C'est Christophe, Nicolas, François,
C'est vrai qu'ils avaient chaque rédacteur avait un peu un centre de spécialité, ou puis Dostoïevski, puis c'était déjà un cinéma assez militant. Gans, c'était le cinéma de Extrême-Orient plutôt. Il y avait Cognard qui était un grand défenseur de Cameron.
Dans le sommaire de Star Fox, on parlait de commando avec J'adore ça, moi, voilà. Alors, si moi je fais des papiers à partir de Justin Dubourg, c'est-à-dire que pour aller parler sérieusement d'auteur,
c'est vrai que toi, comme tu dis, toi, tu te considères pas comme un critique, t'es juste un mec qui donne son avis, mais c'est ça qui marchait chez toi, en fait, c'est juste que t'as un style assez déluré, belge, on va dire.
Comme disait une amie, une disque que j'aime bien chez toi, c'est que moi, une amie qui me disait ça, je ne suis pas... moi je suis pas du tout cinéphile, mais quand je lis tes papiers, j'apprends des choses et je me marre. Et moi c'est un peu mon mantra, c'est ça qu'on dit, mon truc depuis toujours. Et ça, ce qui m'empêche pas de faire des papiers sérieux, etc. Mais je me sens pas à l'aise quand je fais des. Quand on me dit je suis journaliste ou critique, je me sens pas au niveau d'être ça. C'est trop sérieux pour moi. Quoi. Je suis critique, je suis journaliste. Ah oui, je suis journaliste. Non. Bien sûr. En fait, je reste. Même Manœuvre me le dit, il me dit ce qui est bien dans ta rubrique Rock et Folk, c'est que c'est un esprit fanzine. Mais je le revendique complètement, quoi. Je suis pas dans l'analyse, ni ça ne m'intéresse pas. J'ai absolument rien contre, mais c'est pas ce que j'aime lire, ni écrire.
Parce que justement, sur à la fois cette culture fanzine, c'est que tu as aussi été. Tu as aussi travaillé en vidéoclub.
Oui.
Est-ce qu'il y a aussi ce côté-là de passeur, de conseiller
J'ai bossé dans un plus grand vidéoclub de Paris juste avant d'intégrer Starfix, qui s'appelait le Vidéoclub des Gobelins, pendant un an et demi. Et évidemment, j'en profitais, j'ai emmené les VHS chez moi le soir. Et j'ai connu l'âge d'or, j'ai connu l'âge d'or de la VHS. J'étais en plein dedans, quoi. Donc j'étais en contact direct avec tous les éditeurs, pas en direct, c'était des vendeurs qui venaient nous vendre leur. En fait, j'étais derrière le comptoir et c'était pas mon vidéoclub. J'étais juste employé et les patrons me disaient toujours, tiens, voilà le vendeur de chez VIP, voilà le vendeur de Château, voilà le vendeur de Proserpil, voilà le vendeur de SVP. Choisis. J'étais heureux, moi. Donc je choisissais, mais j'étais malin, je choisissais évidemment des trucs dont je savais qu'ils sortiraient facilement. Et puis, pour me faire plaisir, je prenais des petites bisseries, des petites zéderies, des polars italiens, des pornos Blue One, des machins et je les faisais sortir moi-même. Je prenais des séries B, j'allais voir des clients qui connaissaient rien au cinéma, je leur disais prenez ça, c'est vachement bien. Donc voilà quoi. Donc, ça se passait comme ça.
Sur justement, tu parlais d'aller vers ces espèces de clients comme ça dans le vidéoclub. C'est aussi à la fondation de Starfix, je pense, c'est Scherzo Vidéo.
Oui, en fait, Starfix a été créé grâce. Par rebond, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, Christophe a travaillé pendant quelques années à l'écran fantastique. Et à l'écran fantastique, il faisait il s'occupait de la rubrique vidéo. Et à force lui-même, j'imagine, de contacter les différents éditeurs, il s'est retrouvé à être conseiller à l'achat de films pour la boîte Scherzo Vidéo. Donc il leur a fait acheter des films de kung-fu, des films asiatiques d'action, genre Les Tueurs Noirs de l'Empereur Fou, ou Le Feu de la Vengeance, je crois. Et aussi des pornos de Gérard Damiano, Storio Johanna, des films comme ça, super Sex Girl aussi je crois, enfin bref. Et ça a cartonné, c'est-à-dire que c'est surtout avec les pornos, je crois que Scherzo a cartonné, tellement qu'ils ont été prêts à investir de l'argent dans une revue de cinéma. Et je crois qu'à la base, je suis pas sûr, mais je crois qu'à la base, Christophe travaillait à l'écran fantastique et avait proposé à Shlokov, je crois, je ne sais pas me dire, que s'ouvrir, que l'écran s'ouvre plus sur d'autres films que le fantastique, plus sur le genre en général. Shlokov n'a pas voulu. Et donc, je pense que c'est pour ça que Christophe est parti et a été fond du Starfix avec Doug, avec l'argent de Scherzo. D'ailleurs, nos boss, les premières années au moins de Starfix, c'était les patrons de Scherzo.
Parce qu'une de tes particularités aussi, c'est finalement que tu ne te cantonnes pas en fait au cinéma dit de genre ou fantastique, c'est que notamment Rock and Folk, tu chroniques aussi le reste.
Oui, enfin,
y a pas de... tu cloisonnes pas en fait.
Non, je ne cloisonne pas. Après, il y a des trucs, des gens, j'aime pas le cinéma d'animation par exemple, ça ne m'intéresse pas, les mangas, j'aime pas, donc, il y a des trucs que je ne vais pas voir, mais en général, oui, je ne suis pas qu'un bisseur.
Mais c'est aussi l'esprit Starfix, si on veut, oui, ça, justement.
C'est-à-dire qu'au départ, nous, on parlait que de cinéma de genre, d'action, d'aventure, fantastique, puis à un moment, dans le même numéro, il y avait Carpenter et un cavalier, quoi. Donc, après, on parlait de ce qu'on aimait. Voilà, et on avait aussi nos têtes de Turc, hein, comme par exemple Yves Boisset, ce qu'on on regrette un peu avec le recul, parce qu'il se trouve qu'on est tombé à la période où Yves Boisset fait ses plus mauvais films, alors qu'aujourd'hui, Yves Boisset, merde, quoi, c'est un super cinéphile, c'est un mec qui a fait des très bons films, mais plutôt dans les années 70. Quoi.
Enfin, le cinéaste préféré de la rédaction de Starfix, ça c'était quand même Claude Lelouch, non? Avec cette belle affiche où ils regardent tous.
Voilà, c'est ça, c'est qu'on s'est dit pourquoi faire une critique, pourquoi faire une parodie de l'affiche. C'est pour ça on déconne, quoi. On pouvait se permettre des choses comme ça que la presse d'à côté ne faisait pas, évidemment. On dit allez, on va parodier l'affiche, donc c'était super rigolo. Non, mais c'était, il faut dire que l'ambiance à ce qu'on fixe, c'était les max bonjour dans le magasin. Parce que moi, le premier truc que je retiens de Starfix, c'est qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi. Qu'est-ce que c'est normal, c'était la folie furieuse là-dedans, c'était gravier, ça. On attend au soir, c'était fou. Et je me rends compte maintenant, puisque après avoir fait, après, il passait par 80 bureaux différents, d'aller voir plein de presse, puis on fait un comique, et on filait Starfix, puisqu'on était la journée ensemble, le soir ensemble, tout ça. Actuel, c'était une espèce de communauté, une secte. Et nous, on était enfermés, en fait. On était enfermés entre nous. C'est comme si on faisait un foncé de luxe, quoi. On était totalement libre, quoi.
Oui, c'était ça, c'était les rédactions à l'heure actuelle, ou bien à la Harakiri, où c'était des bouclages homériques, la bille dans le champagne, tout ça. Non, pas de champagne, trop cher. Pas encore. Et donc Starfix, c'est aussi la défense de genre ou de cinéastes qui maintenant sont reconnus. Donc on peut être Cameron, McTiernan, de Carpenter, qui dans la presse cinéma généraliste ou bien spécialisée était soit peu traité, soit mal traité. Et donc, vous avez eu un œil, enfin, je sais pas, toi et tes camarades directs pour voir que tel ou tel mec était bon et qu'il fallait les défendre.
Il a reçu des tonnes de courriers, il a passé des semaines à la photocopie à faire des monceaux de papier avec l'interview complète, de faire l'équivalent d'un demi-bouquin qu'il envoyait à plein de lecteurs gratos. Enfin, je suis pris du timbre et voilà quoi. Et sachant qu'au sein de la rédaction, il y avait en plus des gens qui n'avaient pas de Zelensky, mais chacun faisait ce qu'il voulait faire, quoi. En essayant de convaincre l'autre que non, c'est bien Zelatki, ou c'est bien machin, ou c'est bien. Voilà.
Au lecteur de l'époque, je crois que quelque chose de très important aussi, c'était les avant-premières.
Ah bah oui, les avant-premières, c'est pareil, c'était hystérique. Parce qu'il fait pour rentrer, on faisait les avant-premières à l'Escurial, salle magnifique qui existe toujours, 13e, Gobelin. Et on faisait les avant-premières quasiment tous les dimanches matins. Voilà, on a fait découvrir nos lecteurs, les films prêtaient dans Starfix, genre Razorback ou des films comme ça. Et le truc, c'est que tu ne pouvais aller à l'avant-première que si tu étais abonné. Et pour être, donc, on avait les lecteurs venaient chercher leur place dans les locaux. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y avait toujours des gens qui n'étaient pas abonnés et qui étaient au courant des avant-premières. Donc, on se retrouvait des fois avec 70 personnes de plus, dont Mathieu Kassovitz, que je dénonce ici. Qui lui me disait, j'achetais Starfix en kiosque parce que je ne voulais pas m'abonner, parce que si je m'abonnais, j'avais peur que Starfix soit abîmé dans l'enveloppe. Donc du coup, il n'avait pas les invitations, mais il me disait, mais ce qui est génial, c'est que comme c'est moi qui faisais les entrées la plupart du temps, qui mettait à l'entrée les scurials et qui prenait les invites pour faire passer les gens à un. Mais il y avait tellement de monde que systématiquement, à la fin, j'en pouvais plus. J'ouvrais les portes et tous les gens qui étaient dehors rentraient. Et Kassovitz disait, moi j'arrivais toujours à la fin parce que je savais très bien que tu allais ouvrir les portes et que je verrais le film. Et la salle était remplie et je pense qu'il y avait des gens par terre, quoi. Et on a passé combien d'années ça a duré. Après on est passé au Max Linder, je crois. Et on a même fait un festival Starfix à l'Escurial où on a fait découvrir entre autres Verhoeven, des films de Geoff Murphy aussi, genre Utu, je crois, enfin, je sais plus trop de souvenirs. On a fait des coups. Pee-wee surtout.
Ouais, c'est
mal. Pee-wee, on a fait sortir, on a passé Pee-wee. Pee-wee, c'est une sacrée histoire parce que la Warner nous avait appelé en disant on a un film très bizarre, on ne sait pas quoi en penser, et ils nous font le projet de Pee-wee à la Warner, le premier Pee-wee de Tim Burton. On sort derrière, on était mort de rire. Les gens de la Warner disent ah, vous trouvez ça drôle? Je dis bah oui. Et du coup, de fil en aiguille, on prend le film, on le passe dans notre festival, ça cartonne, et la Warner oublie qu'ils allaient laisser la copie à l'Escurial. Donc du coup, Jean-Jacques Zimmerman, le patron de l'Escurial, profite du truc et commence à faire des séances en pirate de tous les vendredis minuit, les samedis minuit, sans séance pirate, où il invite tous les branchés de Paris. Alors, tout Paris avait vu Pee-wee en pirate, machin. Le buzz a monté. Et du coup, je crois que Jean-Jacques Zimmerman a dû acheter Pee-wee à la Warner, l'a sorti en salle et a fait un carton. On a fait venir Pee-wee, Paul Rubens. Il y a une soirée au bain-douche, c'est très bon chose tout ça. Une soirée au bain-douche où Pee-wee a refait la breakdance. Et le film a fait, je ne sais plus combien d'entrées, 100 000 entrées, mais c'était beaucoup à l'époque pour un film. Voilà. Et donc du coup, on a découvert Tim Burton, sans le savoir. Et voilà. Faire la
Sur, tu parlais de ses avant-premières aussi, je pense à un film qui me vient comme ça, parce que je crois que ça a été un film important pour Kassovitz, je pense à Requiem pour un massacre.
C'était un film important pour, oui, Mathieu, je crois, et Albert Contel aussi. Il était aussi lecteur de Starfix. Quand je dis lecteur, je ne sais pas s'il a acheté tous les numéros, mais je sais, en tout cas, lui, il a été marqué par le Requiem pour un massacre dans Starfix, oui, le film de Klimov. Un des films de guerre les plus traumatisants, la guerre vue par un enfant en fait. Et à tel point que je crois que Dupontel l'a repassé dans le cadre du carte blanche qu'il avait eu à Canal il y a quelques années. Oui, il y avait ce film-là aussi. Je crois que c'était Nicolas qui défendait à l'époque. Il avait un papier dessus, je me souviens plus. Je sais pas, on l'a numéro. Donc voilà.
Qu'est-ce que tu continues à... Est-ce que tu continues à voir des films? Tu écris toujours, mine de rien? T'as arrêté?
Et voilà, c'est ça que j'allais dire. Sans tomber dans le vieux conisme, du coup, il y a encore des films qui sortent que t'aimes ou que t'apprécies. Maintenant c'est open bar quoi, c'est quand t'es un gros cinéphage comme toi qui bouffe de tout, entre internet, entre le câble, entre les chaînes de télé, entre tous les de presse. Ouais, et c'est vrai que ça c'est assez fascinant. Il y a plein de films qui sortent, qui en plus sont restaurés par les mecs, qui font ce qu'ils appellent des repacks où ils remettent les meilleures pistes audio sur les meilleurs Blu-ray existants. Des mecs qui font un travail de dingue. Et... Des films de patrimoine bis, quoi. Donc Thibaut vient d'arriver, dis bonjour Thibaut.
Salut à tous.
Et non mais du coup tu fais comme tout le monde, des fois tu dis que tu pourrais mettre un bon film puis tu mets une petite merde sympathique et... Ouais moi aussi hein, j'ai vu. Et c'était à la hauteur de ton attente?
Je m'attends à mes filles parce que je sais que plus le temps passe, plus je dis putain, en fait, c'est des nanas, etc. Donc là, c'est un film. C'est pas un bis, quoi.
C'est un vrai film.
Mais c'est vrai que des fois, je me vois des Polnachi, des films d'horreur espagnol, des films de Garou, tout le cinéma d'horreur espagnol, ou tous les Diallo, maintenant, ça y est, ils étaient sur le net. Et des fois, je dis, bah, non,
des fois je relis une classique aussi que j'ai jamais vue, un pur savoir, machin. Non, je navigue vraiment. Et j'aime bien par exemple suivre les comédies françaises. J'aime bien les comédies françaises. Mais c'est horrible de dire ça, hein, mais quand je dis ça, ce qui me fait marrer dans le milieu des geeks, c'est que la comédie française, c'est l'ennemi à abattre. Mais, je suis pas d'accord. Et il y a des bonnes comédies françaises.
Non, mais il y a tout. En plus, dans la comédie française, c'est quand même extrêmement varié. Quand on regarde des films, que ce soit des années 50 à maintenant, après, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la représentation des gens qui sont les héros de comédie française. Par exemple, maintenant, c'est souvent des connards arrivistes avec des comédies qui, voilà, qui sont. Qui... Et encore que Clavier faisait des trucs assez différents à l'époque où il a commencé, quoi, avec les Baba Cool ou bien Je vais craquer. Mais quand tu remontes années 70, les héros de comédie française, c'est plutôt des marginaux, des mecs un peu paumés, avec des films de chômeurs, trucs comme ça.
Et du coup, j'ai eu ça en moi. Et je les ai toujours croisés, moi, tous ces gens-là, dans les coulisses, quand j'avais 10 ans, 9 ans, 8 ans. Donc ça fait partie de mon ADN. Et donc j'ai beaucoup d'admiration, de sympathie pour tous ces gens-là, qui étaient tous des acteurs qui tournaient pour s'amuser. Avant tout, pour s'amuser.
Ouais, que je me rappelle d'un article que tu avais écrit dans Brésil où tu parlais des rois du gag de Claude Zidi. Ouais, c'est ça, donc le film avec Michel Serrault qui est le rôle principal, et il y a deux jeunes acteurs qui sont Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot. Et Michel Serrault te racontait sur le plateau qu'il était étonné de les voir autant bosser aussi sérieux et qu'il ne pensait pas à s'amuser comme eux le faisaient avec Poiret, avec Galabru.
Qui est scénariste et metteur en scène.
Est-ce que tu vois justement, Christophe, d'autres territoires? Tu parles de la comédie française là, mais je pense à tout ce que tu as peut-être pu voir de cette en VHS par exemple, mais des choses qui ne sont pas rééditées par exemple aujourd'hui, des territoires encore, est-ce qu'il y a encore des territoires un peu vierges en fait?
J'imagine que si tu vas... Moi je me souviens de Jean-Pierre Jackson et Christophe Gans qui étaient partis au Japon, parce que Jean-Pierre Jackson qui a été distribué des films... asiatique en France,
le film de Russ Meyer.
Et Christophe Gans a fait beaucoup pour le cinéma asiatique via HK, et ils étaient partis pour acheter des films, et ils sont revenus, ils étaient blêmes en disant mais c'est monstrueux, là, on ne connaît que 0,0001%, c'est-à-dire que tu vas là-bas, des milliers de films dont on n'a jamais entendu parler. Et bon, c'est des vieux films, hein, mais c'est pareil, là, tu vois, la Warner par exemple.
Des vieux films de la Warner des années 30 ou de n'importe quelle grosse boîte hollywoodienne, il n'y en a que 1%, ça, ou 2, ou je ne sais pas combien de pourcents, 5% qui sont sortis en France. Tu les vois des fois sur TCM, tu vois des films, merde, ça existe et c'est sans fin en fait. Bien sûr qu'il y a des tas de films. Je te parle même pas de l'Inde, j'y connais rien, mais le cinéma hindou qui est le plus gros producteur de films au monde depuis des dizaines d'années, il y a peut-être des chefs-d'œuvre. Et la Corée en ce moment, dans le genre, font des trucs incroyables. Quand je vois un film comme Dernier Train de Busan où tout le monde délire, moi je trouve ça bien, hein, mais je dis d'accord, mais des comme ça, il y en a au kilomètre, il y en a au kilo hein, en Corée. Mais... Voilà. Donc oui, il y a encore à voir, sans parler de ce qui va arriver demain, parce que j'avais pas encore essayé la Festa de Strasbourg, fantastique, la réalité virtuelle. Et là j'ai vu ça, je me suis dit oh putain, les possibilités. J'en ai parlé avec Yann Kounen au festival il y a 3 jours, qui est à fond dessus là. Et je pense qu'il va y avoir une nouvelle forme d'écriture, il y a un nouveau truc qui va arriver là, ça va être... Là on est aux prémices de c'est plus important encore que le champ que l'arrivée du cinéma sonore au cinéma
Ouais, parce que c'est sur quoi bosse Cameron avec ses suites d'Avatar, avec le 60 FPS et encore une nouvelle 3D ou le nouveau film de Ang Lee qui a eu ses premières projections aux États-Unis là, et qui a des retours hyper catastrophiques parce que le public n'est pas habitué à voir ça en termes d'image. Ouais, parce que c'est le genre de technologie qu'ils ont moins peur d'utiliser dans le monde du jeu vidéo, par exemple. Toutes ces méthodes 3D, ces méthodes de captation des comédiens, alors que quand ça vient dans le milieu du cinéma, il y a tout de suite beaucoup plus de réticence de la part du métier ou même des spectateurs.
Pas les numériques.
il m'a dit non, mais tu es fou, le numérique c'est génial, le numérique tout travaille, les couleurs, tout le monde sur le numérique. Donc voilà.
On a un peu une rubrique dans l'émission à la fin qu'on appelle les coups de cœur de la semaine. Et on voulait savoir, est-ce que tu aurais, bon, c'est toujours la question, là c'est un peu à vif, c'est pas facile, mais. Un coup de cœur de la semaine ou je sais pas, quelque chose que tu retiens.
J'ai adoré Poésie sans fin, justement. De Lelouch, je sais pas comment ça. De Claude Jodorowsky.
D'un film que tu as vu, que tu as vraiment aimé, que ce soit en vidéo, en téléchargement, au cinéma, un spectacle de marionnettes.
Le dernier coup de cœur, parce que je suis au festival moyen m'étrange. Non, c'est pas mal. Regardez tout ça. Je confonds les festivals. Le coup de cœur, puisque je suis
parfait, qui a un long métrage de 36 minutes, absolument incroyable, assez destroy, complètement fou, super émouvant, mais je ne vais pas en parler parce que sinon ça n'y aura pas la surprise pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, ça c'est un coup de cœur. Poésie sans fin, je sais plus ce que j'ai vu là. En plus, je note tous les films, parce qu'en plus, je note tous les films que je vois depuis que j'ai 14 ans, moi. Sur un cahier, maintenant je note tout. Donc, je vois 50 films par mois, 40-50 films par mois, je sais plus. Voilà.
Donc, tu veux dire que toi, tu regardes les films et que Christophe Gans, il les achète pour les mettre chez lui, mais sans les voir? Parce qu'il a un paquet de films incommensurables, tu nous disais.
Que moi, lui, il doit avoir 100 films par mois, je pense encore. Mais lui, il dort 4 heures par nuit. Hein, donc, puis il joue à tous les jeux vidéo, et puis c'est un cas. Il est hallucinant. Je sais pas, la dernière fois que j'ai vu, il me dit non, t'as vu le film de Pascal Thomas? Je dis bah, tu regardes ça. Ouais, c'est pas mal, je sais plus, machin, non, il est à fond. Hein.
Et ta dernière, parce que tu es quand même un très grand amateur de biographie.
Ouais, je suis en train de lire. Bah, je viens de commencer le bouquin sur notre cher, un autre qu'on a découvert dans Starfix, notre cher Bruno Mattei. Donc, édité par Artus.
Chez Artus, ouais,
voilà, donc je viens de commencer ça.
C'est comme
ça.
Le bouquin de Franco.
Ouais, exactement, ça a l'air super. Et bravo à David Didlo, en fait j'appelle, enfin lui c'est la relève, si j'ose dire, des gens comme ça qui je crois qu'il a dû être lecteur de Starfix aussi. J'ai dû lire Starfix, sauf que lui, c'est vrai qu'on prenait Bruno Mattei à la rigolade, hein, une série Z, en disant, mais en le défendant quand même, alors que lui a fait un bouquin, je pense, un peu plus sérieux et très. Il défend à fond, film par film et tout, ça génial. Avant ça, j'ai fini un bouquin que j'ai trouvé d'occasion sur Julien Duvivier, avec plein de témoignages. J'en ai plein qui m'attendent. J'en achète plein, je ne sais plus ce que j'ai. J'achète ça, rien du tout. J'en ai plein. J'ai toujours pas lu l'autobiographie de Jackie Sardou, qui doit être chez moi. Il s'appelle Et petite grosse. Non, mais ça va loin des fois. La pire autobiographie que j'ai lue, je crois que c'est les deux pires, c'est Jean Lefebvre et Claude Lansac. C'est de l'haricot, là, c'est incroyable. J'ai toujours été fan d'haricot. C'est du fou, ça. Je parle de Triporteur. Mon père a joué avec d'haricot au théâtre. Lui aussi, j'ai rencontré en coulisses. Et voilà.
Peut-être pour le mot de la fin, est-ce que je crois que ce que tu retiens un peu de ton année 2016 en cinéma, il y a le L de Verhoeven et puis Comancheria.
Ah oui, Comancheria, c'était une super surprise. Mais c'est pareil, Comancheria, ça fait partie de ces films. C'est un de mes films de l'année, je pense. Mais en même temps, c'est ce qui devrait aujourd'hui être la norme. C'est toujours pareil. On dit, mais c'est génial. Alors, il y a un délire autour de Comancheria justifié. Mais en même temps, il y a 30 ans, un film comme ça, c'était la norme. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est normal, puisque Hollywood est totalement marvelisé. Donc, du coup, tu vois tout d'un coup un film à l'ancienne. Bien cadré, bien filmé, en scope, avec une histoire, des personnages, et en plus il y a un semi-remake avec Sierra de Walsh, et tu te dis waouh, putain, ça fait plaisir tu vois, de voir ça. Et, oui, du cinéma, je suis sorti là, j'ai dit putain, et les mecs, on vient de voir un film, et... on vient de voir un film, vous avez vu, on a vu un film, et voilà, donc oui, mais et en plus, je dis ça, il y en a probablement des tonnes que je rate. Hein. Parce que je suis chez moi, je vois plein, et après je dois rater. Des fois, il y a des films, je vois 5 ans, 6 ans après, sur le câble, même les films français, je dis oh putain, c'est bien ça. Ah, en fait, c'était bien. Voilà quoi. Voilà. Bon.
Eh bien, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans un temps de Godard, ou la semaine d'après. Merci Christophe. Merci. Pour cet entretien, et puis voilà.
Merci.